I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce lundi pour une nouvelle semaine sur Europe 1 de 9h à 9h30 et tous les jours l'heure des pros jusqu'à 10h30. C'est une information que je n'ai pas entendue hier soir lors du journal de France 2 ni ce matin sur France Inter. Le Puy du Fou est sacré meilleur spectacle du monde. Récompense internationale à Los Angeles, l'équivalent des Oscars pour un théâtre en plein air, qui a rassemblé 2,6 millions de spectateurs en 2023. Ah, évidemment, si Benjamin Stora écrivait les tableaux historiques du Puy du Fou, s'il était question de la France coloniale du 19e siècle, si on évoquait Napoléon sous le seul angle de l'esclavagisme, je ne doute pas que nos éditorialistes souligneraient le travail de mémoire indispensable, applaudiraient la repentance nécessaire. Hélas, le Puy du Fou est né en Vendée, ce qui est déjà suspect. Un territoire hostile à la Convention, si hostile que les Vendéens furent massacrés par Robespierre et ses amis. Le Puy du Fou est piloté par un ci-devant aristocrate à particules, dont la famille a scandaleusement échappé à la guillotine, au point qu'une descendance existe toujours. Heureusement, complément d'enquête a rétabli le tribunal révolutionnaire. Enfin, le Puy du Fou raconte une histoire française. Les mousquetaires de Richelieu, les amoureux de Verdun ou les grandes eaux de Versailles. Alexandre Dumas n'est plus à la mode chez nos trissotins qui n'aiment le passé que pour le salir, pour le déconstruire, comme ils disent. Gloire au Puy du Fou. Le succès ignore les ignares qui ratiocinent dans leur arrière-cuisine une rancœur que le public n'écoute pas. Ah, gloire au Puy du Fou et bravo. Il est 9h, Chanel Ousto.
Quelle belle allitération.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le commissariat de la Courneuve visé cette nuit par des jets de cocktails Molotov et des tirs de mortier. 9 personnes ont été interpellées, 2 policiers blessés. Des émeutes en réaction à la mort de Wanis, ce jeune homme qui avait percuté un véhicule de police à Aubervilliers alors qu'il fuyait un contrôle. Selon William Maury du syndicat de police Alliance, il n'y a aucune ambiguïté sur les motivations de ces individus.
On n'est plus là pour jouer, hein, qu'on soit clair. Ils étaient là pour se faire du flic et pour cramer les policiers, tout simplement. Donc, y a un moment, il faut appeler un chat un chat. On est face à des meurtriers. On n'est pas face à un ou deux émeutiers. On est face à des centaines d'individus.
Le collégien qui a menacé sa principale à Dijon a passé la nuit en prison. L'adolescent de 15 ans a été mis en examen hier, notamment pour tentative d'homicide volontaire sur un enseignant. Les cours doivent reprendre ce matin à 10h dans l'établissement et la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, est attendue sur place. Et puis, sans grande surprise, Vladimir Poutine a été réélu à la tête de la Russie cette nuit. Une victoire historique à 87%. Il faut dire qu'il n'avait aucun opposant sérieux face à lui. Après l'annonce des résultats, Vladimir Poutine a donné une conférence de presse et il a promis à ses électeurs de ne pas se laisser intimider. Écoutez.
Peu importe qui veut nous intimider ou à quel point, peu importe qui veut nous écraser ou à quel point, notre volonté ou notre conscience. Personne n'a jamais réussi à faire quelque chose de semblable dans l'histoire. Cela n'a pas fonctionné aujourd'hui et cela ne fonctionnera pas à l'avenir.
Voilà pour l'essentiel de l'information, c'est à vous Pascal.
Merci Chana Lousteau. Nous sommes avec Elisabeth Lévy ce matin, avec Noémie Schulz, Nathan Devers que vous connaissez. Nathan Devers qui a les honneurs de la presse de gauche, qui s'étonne que vous soyez présent parmi nous régulièrement. Vincent Hervouette, Gauthier Lebret et Philippe Guibert. Est-ce que vous connaissez le parc Georges Valbon?
Non. Nous allons le connaître.
Parc Courneuve.
Exactement. Oui. Et pourquoi je vous parle du parc Georges Valbon,
hein.
C'est à la Courneuve, parce que c'est là que sont organisés tous les grands rassemblements pour les Jeux Olympiques. Et quand j'ai vu ce qui s'est passé hier soir à la Courneuve, je peux légitimement, peut-être, m'inquiéter. Je vous propose de voir le sujet de Marine Sabourin, parce que ce qui s'est passé avec... Alors, c'est du déjà vu.
Oui.
Tout ça est du déjà vu. comme rien ne change, il n'y a pas de raison non plus que ça change. On tire sur les commissaires, on tire sur les flics. Tout ça est normal, madame, alors, messieurs.
Il y a des émeutes, c'est assez...
Tout ça, voilà.
Il y a le rôle de l'avocat quand même.
Mais voilà, c'est parce que, bon, il faut les comprendre.
Une soirée en France.
Il faut les comprendre, une soirée en France. Voyez le sujet.
C'est à la tombée de la nuit que le commissariat de la Courneuve a été ciblé par les premiers tirs de mortiers d'artifice. Plusieurs groupes d'individus sont positionnés à seulement quelques mètres du poste de police, jettent également des projectiles et incendient des poubelles. Par mesure de sécurité, la circulation du tramway T1 est interrompue aux alentours de 23 heures. L'élément déclencheur, selon les syndicats de police, le refus d'obtempérer d'un jeune de 18 ans en scooter, décédé mercredi.
On peut déplorer justement, encore une fois, que c'est le commissariat, nos collègues aujourd'hui sont attaqués alors qu'il y a une enquête qui est en cours et que la justice est saisie des faits. Et nous apportons notre soutien, bien évidemment, à l'ensemble des collègues du 93 de la Courneuve.
Une sécurisation a été mise en place autour du commissariat en fin de soirée. Le calme est revenu aux alentours de minuit.
Écoutez, William Maury, qui est un responsable Alliance de la police.
Donc on n'est plus là pour jouer, hein, qu'on soit clair. Ils étaient là pour se faire du flic et pour cramer les policiers, tout simplement. Donc y a un moment, faut appeler un chat un chat. On est face à des meurtriers. On n'est pas face à un ou deux émeutiers. On est face à des centaines d'individus. Vous le voyez sur les images, hein. Nous, on a eu d'autres images de vidéoprotection. On a nos collègues, au moment où les jets de cocktail Molotov sont jetés sur la façade du commissariat, nos collègues sont derrière le rideau métallique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune échappatoire.
Je vais vous donner évidemment la parole dans une seconde. Une habitante qui réagit.
On s'est réveillé, donc on habite juste en face et on a vu que c'était le grand bazar. J'ai un petit enfant de 3 ans et demi, donc il s'est réveillé toute la nuit. Et donc, on lui a expliqué que c'est des feux d'artifice, quoi. On peut pas lui expliquer ce qui se passe vraiment. Et donc, c'est vrai que c'était très, très fatigant. Que plusieurs fois, il y a eu des camions de CRS qui sont passés. Donc, on s'est dit, sûrement les jeunes ne vont rien faire parce qu'il y a la police. Mais une fois qu'il n'y a pas de camion, c'est là qu'ils s'attaquent directement.
Bon, il y a du mieux d'un autre côté. Là, c'est des tirs de mortier. La semaine dernière, à Nantes, dans un quartier de Nantes, c'était des Kalachnikovs, des bandes rivales qui se sont affrontés à coups de Kalachnikov pendant une heure. Bon, là, c'est des tirs de mortier. Que jeunesse se passe. Je vous propose d'écouter Bardella, Jordan Bardella, qui a tweeté.
Il y a X.
Oui, pardonnez-moi, on ne va pas l'écouter, puisqu'on va le lire. Soutien aux policiers de la Courneuve, dont le commissariat est attaqué par des bandes de cités. Pour nous, il n'y aura jamais d'excuses ou de circonstances atténuantes au fait de s'en prendre à nos forces de l'ordre. Et puis, le tweet du jour revient à Philippe Poutou. Joli feu d'artifice ce soir devant le commissariat de la Courneuve. Soutien à une colère légitime après qu'un jeune homme ait... Bon, faudrait lui apprendre que c'est l'indicatif, mais ça, c'est pas grave. Après qu'un jeune homme a encore été tué par la police, suite logique des révoltes de juillet 23, tout s'aggrave, racisme, discrimination, pauvreté, mal logement, violence répressive. Bon, je rappelle de la révolution.
Il y a une enquête contre le NPA pour apologie du terrorisme, parce que dès le 7 octobre, il faisait l'apologie du Hamas.
Non, mais il faut quand même, là-dessus, dans cette affaire de la Courneuve, j'ai entendu, je crois, sur notre plateau, l'avocat de la famille des victimes. Et là, quand même, je sais bien que les avocats défendent leurs clients, qu'ils font la défense que leur demandent leurs clients, mais celui-ci, me semble-t-il, a dit que les policiers l'avaient fait exprès. C'est-à-dire, les policiers se lèvent le matin et puis ils vont faire des rodéos. C'est eux qui vont faire des rodéos pour tuer des jeunes.
C'est M. Bouzrou.
Oui, je crois que c'est... sous le contrôle de Noémie.
Monsieur Bouzrou, c'est son fonds de commerce.
Oui, mais donc, c'est irresponsable, Pascal.
Oui, c'est irresponsable.
C'est quand même... Parce que c'est ça qui donne aux jeunes, quand on leur dit, vous comprenez, les policiers ont fait exprès dans des cerveaux...
Bien sûr.
Si vous voulez. Et c'est terrible.
Mais oui, mais je vous dis, c'est... Il y a des gens dont c'est le fonds de commerce. Donc la France Insoumise, c'est le fonds de commerce. Poutou, c'est le fonds de commerce. L'avocat, c'est le... Ben oui, mais c'est... Ça s'appelle un fonds de commerce. Tu gères une petite épicerie. Donc tu dis aux gens ce qu'ils veulent entendre. Oui, hein.
Mais là, je pense que ce qui est aussi très important, c'est la question du rapport à la violence. C'est intéressant que Philippe Poutou cite les émeutes de juillet dernier, parce qu'en juillet dernier, on avait assisté à quelque chose d'assez analogue. Ça veut dire une indignation qui était générale, qui était universelle, qui était parfaitement légitime, et dont certains ont estimé, vous savez, c'était la phrase qui avait été reprise, tant qu'il n'y a pas la justice, il n'y aura pas de calme. Alors qu'une enquête était ouverte, qu'un désir de justice se manifestait dans la société, il y a, chez certaines personnes, un rapport qui est plus qu'ambigu à la question de la violence, et ils ne voient pas surtout...
Il n'est pas ambigu du tout.
Non, chez Philippe Poutou, là, ce n'est pas ambigu, c'est clair, mais il y a des gens pour qui, c'est, si vous voulez, ils vont contextualiser, relativiser, dire qu'il y a...
Chez Edoui Plenel, ce n'est pas ambigu, chez tous ces gens-là, ils veulent détruire notre modèle. Mais et ça passe par une révolution. Une révolution, c'est violent.
Et ce que ces personnes ne voient pas, c'est que l'usage de la violence, en plus, est complètement, sans même faire de morale, est complètement contre-productif. Ça discrédite la cause.
C'est possible, mais ça
pas toujours dans l'histoire de France. Pas toujours dans l'histoire de France. Parfois, la violence, ça marche.
Ça marche, en général.
Éric Henry, sur M. Poutou, écoutez ce qu'il a dit. C'est un responsable syndical Alliance.
Je ne sais pas est-ce qu'il y a de mots assez forts dans la langue française pour définir ce que j'ai ressenti, ce que beaucoup de gens ressentent, hein, les citoyens de notre pays qui travaillent dur, hein, et qui respectent la loi et les règles. C'est n'importe quelle femme ou homme politique doit soutenir, je dis bien, sa police républicaine. Parce que la police est le socle d'une république. Ça fait partie des piliers de la république, des fondations de la république. Et la sécurité, la première des libertés, un responsable politique peut appeler à la transparence, à connaître la vérité, mais il ne peut pas, comme ça, s'ériger en juge, en juge par rapport à des postures et des positions dogmatiques. C'est purement scandaleux.
Je ne vois pas ce qu'on peut dire qu'on
se laisse faire.
Ah ben, vous voulez que je dise Eh ben, je vous le dirai ce qu'il faut faire. Je vous assure, ça peut très vite marcher, en fait.
Vous croyez?
Ah oui. Ah
bah, c'est là que je suis un peu pessimiste.
Ah bah oui, mais vous êtes pessimiste.
Mais ça peut marcher aux États-Unis,
non? Ça marche très bien.
Comment c'est
vous, vous les prenez les neuf interpellés, là.
Aux États-Unis, je suis pas sûr que ce soit le bon exemple.
La tolérance Philippe Guibert. Philippe Guibert. Oui, parce que c'était. Qu'est-ce qu'il faut faire? Celui qui touche à un policier ou à un commissariat ne sort plus de prison. Est-ce que ça vous va?
Non.
Non.
Non. Bon. Alors on va nuancer. On va dire, on va faire une peine à ce point dissuasive.
Là, je suis plus d'accord.
Que celui qui touche en France à un policier ou à un commissariat, il a une peine tellement forte qu'il ne recommencera pas.
Ça, oui.
Et là, on va en prendre deux ou trois. Et croyez-moi, tu lances un tir de mortier sur un commissariat, 10 ans.
Non, mais ça, d'accord. Là, je
pour une fois, c'est pas mal.
C'est pas la même chose que de mettre tout le monde dans la vie.
Donc, c'est assez simple, en fait. C'est assez simple.
Non, mais juste, il faudrait commencer par avoir le bon diagnostic, parce que là, selon le diagnostic d'Emmanuel Macron, ça n'aurait pas dû se produire. Je rappelle qu'à sa conférence de presse, il nous a expliqué les émeutes de l'été dernier par la réforme du bac, parce qu'on avait avancé les épreuves du bac et que les jeunes n'avaient plus d'occupation en
loisiveté.
Puisque vous faites une petite parenthèse sur le président de la République, qui, la semaine dernière, est intervenu devant les hauts fonctionnaires. Et si j'ai bien compris, au bout de 7 ans, il leur a expliqué que c'était de leur faute.
Bon, ça marchait pas.
Mais alors, hier, j'ai lu Monsieur Le Maire dans le journal du dimanche.
Programme.
Dès qu'il va être ministre, cet homme-là, ça va changer. Dès qu'il va être ministre, faudrait. Pourquoi on lui donne pas une place de ministre à Bercy, à Monsieur Le Maire? Parce que j'ai lu son interview. Il a plein de bonnes idées. Mais il faut absolument qu'il soit ministre. Appelez, demandez à M. Macron qu'il le nomme ministre.
Non mais,
écoutez, franchement...
Il va résoudre les 3000 milliards de dettes.
Mais cet homme est formidable. Il a plein de bonnes idées. Qu'est-ce qu'il a dit, par exemple, sur le service...
Il a dit qu'il fallait arrêter avec le mirage de la gratuité universelle, qu'il y avait beaucoup trop de dettes, qu'il y avait beaucoup trop de dépenses.
Mais nommons-le ministre des Finances.
Ça, c'est une bonne idée. Mais quand tout le monde s'extasie, parce que Bruno Le Maire a dit nous devons passer de l'État providence à l'État protecteur. Mais l'État, débrouillez-vous un peu comme des adultes. C'est quand
Elisabeth Lévy.
Elisabeth Lévy.
Ils vont tous être comme ça parce qu'ils vont vouloir jouer la rupture. Ils vont vouloir jouer la rupture avec Emmanuel Macron, les prétendants à sa succession. Donc ils vont. Gérald Darmanin fera pareil avec la sécurité. Gabriel Attal aussi n'assumera pas le bilan d'Emmanuel Macron. Ils vont tous faire ça parce qu'ils peuvent pas être élus s'ils jouent la continuité. Donc ils vont essayer de jouer la rupture. Celui qui pourra le mieux le faire, c'est Édouard Philippe, parce que ça fera 7 ans qu'il sera plus au gouvernement en 2027.
Qu'est-ce qu'il Édouard Philippe. Édouard Philippe, qu'est-ce qu'il devient, mais c'était pas gentil.
C'est une bonne question quand même. Pour quelqu'un qui veut être président de la République, être silencieux à ce point-là.
La violence dans notre pays, on va voir ce qui s'est passé avec un drame dans l'Aveyron. Un père de famille de 45 ans est décédé samedi des soirs dans un supermarché. Il a été tué à l'arme blanche par un jeune alcoolisé. Alors évidemment, comme tous ces jeunes gens ont des dagues sur eux, quand ils sont des dagues, des gros couteaux, c'est-à-dire qu'il faut... Tout le monde comprend qu'il ne faut rien dire, hein. qu'aujourd'hui, tu te fais rentrer dedans, tu as un souci, tu te tais. Tu sais jamais contre qui comment ça peut se terminer.
Oui. Pardon, donc, sourire, c'est à cause de l'emploi du mot dague que vous devez être le seul employé pour parler
non,
de l'emploi.
Non, c'est une dague. Écoutez, vous voyez le sujet de
notre dites donc à un jeune dans la non. rue, avez-vous une dague, mon
mais
ami
c'est une dague, ça s'appelle une dague, c'est pas un couteau. Regardez le sujet de Kylian Salé, agression. Il y a un... Mais vous, moi, mais vous souriez, mais en fait...
Non, mais je souris à cause de votre emploi du mot
dague. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais il y a un homme de 45 ans qui meurt.
Bah oui.
Et c'est un père de famille. Il était là au mauvais moment, au mauvais endroit.
Devant son fils et sa femme.
Devant son fils. C'est juste un drame absolu.
Bah oui.
Absolu.
Mais à votre avis.
Mais tous ces jeunes gens des couteaux. Et on, donc voyez le sujet de Kylian Salé.
Il est 19h15 ce samedi soir. Sur le parking de ce supermarché, un homme de 23 ans, alcoolisé au volant d'un fourgon, roule dangereusement. Un père de famille lui fait une remarque. L'individu alcoolisé s'arrête et poignarde l'homme de 45 ans au thorax avec une dague.
Oui, lorsque je suis arrivé, donc la victime était étendue ici et elle était prise en charge par les équipes du SAMU qui, pendant près d'une heure, ont tenté de la réanimer en vain, malheureusement.
Dans cette commune, la troisième la plus peuplée du département, les habitants ne s'attendaient pas à une telle violence.
Un peu choqué de ce qui s'est passé quand même à Rodez ici, quand même. Parce que c'est, ouais, je trouve quand même que c'est grave pour une ville comme ça. Quoi.
C'est une petite ville, Rodez, on ne s'y attendait pas à ce qu'il se passe des choses comme ça.
La mère du suspect ne comprend pas le geste de son fils.
C'est pas parce qu'on a eu une enfance malheureuse qu'on a été traumatisé et tout ça. Moi aussi, avec leur père, j'ai connu la violence, l'alcool, les coups et tout ça. Mais c'est pas pour ça que moi, maintenant... Alors quelqu'un me dit quelque chose, je sors dehors et je le poignarde parce que ça me plaît, c'est pas possible.
La femme de la victime a également été blessée, mais ses jours ne sont pas en danger. Elle et son fils de 13 ans sont pris en charge dans cet hôpital à Rodez.
Alors, vous avez entendu la mère du principal suspect dans ce sujet, sauf erreur de ma part, elle s'appelle Ophélie Beglioumini. C'est un interview, un entretien qu'a récupéré, qu'a eu RTL. Et je vous propose de l'écouter en longueur.
Ça n'excuse pas tout, mais il a subi la séparation de son père et moi. Donc il a commencé à faire des bêtises sur bêtises sur bêtises. C'était quelqu'un qui a trouvé son refuge dans l'alcool, dans la drogue et tout ça. Et c'était quelqu'un qui avait beaucoup de colère, de haine en lui. Je ne sais pas quoi vous dire, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien. Ce n'est pas parce qu'on a eu une enfance malheureuse qu'on a été traumatisé et tout ça. Moi aussi, avec leur père, j'ai connu la violence, l'alcool, les coups et tout ça. Mais ce n'est pas pour ça que moi, maintenant, alors quelqu'un me dit quelque chose, je sors dehors et je le poignarde parce que ça me plaît. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je cautionne pas du tout. Moi, j'étais à la messe ce matin, j'avais beaucoup besoin de prier. Prier pour cette famille, cette mère, et je me joins à leur douleur. Parce que d'avoir quelqu'un que vous aimez et qui vous soutient et qui est là et qui est un pilier et qu'un jeune, parce qu'il a bu, puisse sortir, prendre un couteau. Non.
Et je vous demande de pardonner parce que je me suis trompé sur le nom de la mère du suspect qui s'appelle Carolina Isabelle. Carolina Isabelle et non le nom que j'avais dit tout à l'heure. Ça, c'est un pur fait divers. Ouais. C'est ce qu'on appelle vraiment un pur fait divers. Ouais. Il faut en tirer
le rapport à la violence que
c'est ça, Philippe, c'est ce que j'allais dire.
Sur le rapport à la frustration, c'est-à-dire à l'incapacité. Vous avez dit que ça peut arriver pour un regard parce qu'on vous refuse une cigarette sur la route.
Alcool et drogues, alcool et quelque chose aussi de ces jeunes gens parfois qui sont régulièrement
sous et du rapport à la violence.
Il y a même le refus de toute contrariété. Quoi.
Peut-être qu'à un moment donné, il faudra avoir des opérations sur le terrain.
C'est-à-dire ?
Peut-être qu'à un moment donné, il faudra avoir des opérations sur le terrain.
Parce qu'il y en a pas.
Après, c'est ce qu'a dit le président Macron. Il est vrai qu'il parlait de l'Ukraine. Il parlait de s'opposer à la Russie. Et c'est la phrase du week-end, quand même.
Bah oui. Voilà.
Bah oui, quand on regarde le feu d'artifice à la Courneuve, et puis après, quand on regarde ce qui se passe dans l'Aveyron, on se dit qu'effectivement, il faudra avoir des opérations sur le terrain.
Ce que vous voulez dire, c'est que plutôt que s'occuper de l'extérieur, il devrait s'occuper de l'intérieur.
Oui, c'est une idée.
Et pourquoi opposer les deux?
Pourquoi vous posez les deux ?
Ouais, je vois pas pourquoi il faudrait choisir entre le.
Mais parce qu'en fait,
entre préoccupé par l'Ukraine et préoccupé
sur gouverner, c'est choisir justement, c'est pas en même temps.
Mais je crois pas qu'il y ait de choix à avoir. Et je pense que ça n'a rien à voir entre la politique extérieure.
D'ailleurs, on ne fait rien sur aucun plan. En fait.
Alors je vais vous répondre.
Il y a tellement de forces armées dans le pays que.
Oui, pourquoi ? C'est assez simple. Parce que chacun comprend que tu peux rien faire en France. C'est assez simple en fait. Chacun le comprend. Puisque Parce que ce qu'il faudrait faire demande un tel changement de logiciel que c'est impossible à régler. Impossible à régler. Parce que en changeant tout. Et comme on ne veut rien changer, il faut mieux parler de l'extérieur que de ne pas pouvoir régler ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que cette réponse vous satisfait ?
Moi, pas tout à fait, parce que qu'est-ce qu'on peut faire face à cela ?
Changer de logiciel,
c'est un fait tragique.
Tout changer,
c'est un fait tragique. Mais en quoi la volonté politique peut-elle changer quoi que ce soit au fait que cet individu ait commis cette monstruosité sur un père de famille ?
Mais d'abord, vous avez raison, et c'est un pur fait divers, c'est ce que j'ai dit. Mais quand tu apprends que ce jeune homme est sous drogue de 23 ans et que tu sais que c'est un fléau numéro un, la drogue, le jour où tu vas commencer à t'attaquer aux consommateurs, le jour où tu vas t'attaquer vraiment aux dealers, le jour où tu vas mettre tous ces gens-là à l'ombre, ça changera peut-être.
La France le fait déjà de s'attaquer aux consommateurs, aux dealers, etc. Ça change rien à la situation.
Je pense que tu ne le fais pas comme il faudrait le faire. On a eu cette discussion 50 fois.
Face à un fait tragique comme celui-ci.
Mais je ne veux pas l'instrumentaliser, vous avez raison.
Je ne veux pas l'instrumentaliser. Ce que je dis juste, c'est une vraie question. Qu'on ait une indignation, entre guillemets, métaphysique, morale, de se dire mais c'est horrible, c'est atroce, enfin, on peut mettre tous les mots qu'on veut, c'est une chose. Mais est-ce qu'on peut avoir une indignation politique ? C'est une vraie question. Est-ce que je veux dire qu'il y a une responsabilité politique derrière, quelle qu'elle soit ?
Sur la drogue est quand même un problème. Est-ce que la drogue est un problème numéro un en France, oui ou non ?
L'alcool aussi, un problème d'alcool.
Oui. D'alcool. Mais surtout, c'est un problème d'école. Si à 23 ans, tu es incapable de supporter d'école, d'éducation en général, si à 23 ans, tu es incapable de supporter quelqu'un qui fait une remarque sans sortir une arme, c'est quand même qu'il y a beaucoup de choses dont l'État est en partie responsable qui ont échoué.
Nathan, n'instrumentalisons pas, ce qui est quand même un fait divers, je le dis, vous avez raison, dans toutes les sociétés, il y a toujours eu ce genre de choses, je suis d'accord. Mais convenons que c'est de plus en plus quand même. Oui, c'est ce que dit en tout cas Alain Bauer et des homicides. Vincent Hervouet, et après on parle d'autre chose.
Moi je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Il y a des tas de sociétés où vous ne croisez pas en permanence des gens qui se foutent éperdument des règles de la vie commune et qui vous disent qu'on leur fait remarquer il y a un problème. Il y a des tas de gens qui vous disent ça. Il y a un problème Il y a leur chien qui est en train de marcher dessus. Il y a un problème.
La musique dans le métro.
En France, on est dans un pays où il y a des gens qui le vendredi soir conduisent n'importe comment un camion, je ne sais pas s'il avait son permis, une assurance ou quoi que ce soit, avec une arme dans la poche, en étant complètement bourré, et avec en plus consommer des stupéfiants. Je suis désolé, c'est un déficit de toute autorité qui est évident. Et il y a des tas de pays où vous avez peu de chances de croiser un type au volant d'un camion, conduisant n'importe comment,
Vincent,
en étant à la fois défoncé et en étant à la fois ivre-mort.
En Suisse,
Mais la Suisse n'est pas
un pays totalitaire, excuse-moi.
J'ai dit Monaco.
Pas tous ensemble, s'il vous plaît, pensez à nos amis. Vincent,
pardon.
Pensez à nos amis de la radio. Si vous parlez les uns sur les autres, déjà en télévision c'est compliqué, mais à la radio, en plus on ne vous voit pas. Pas mal de comportement. Bon, vous vouliez dire un mot avant Noémie Gilles.
Non, c'est un phénomène européen, Vincent. Et d'autre part. Pas en Suisse.
Pas en Suisse, je suis désolé de vous le dire.
En Allemagne, en Hollande, en Belgique.
Mais pourquoi
Belgique,
vous dites ça, vous, pas en Suisse vous... En Suisse, vous allez en Suisse, c'est pas le cas.
Bon, d'accord.
En Espagne, c'est pas tout à fait ça. Pardonnez-moi. Au Portugal, c'est pas tout à fait ça.
Il y a une inversion du cycle.
En Hongrie, c'est pas tout à fait ça.
Non, je crois pas que vous mesuriez la perte de crédit de la France à l'étranger au regard de cette délinquance invraisemblable. Vous n'imaginez pas, les propos du chef de l'État qui fait la leçon à la terre entière sont totalement discrédités par le spectacle que donne la France.
Oui, mais c'est pas noble de parler de la délinquance.
Sa dette extérieure.
C'est plus noble de parler de diplomatie.
L'état de ses services publics et l'état de fièvre permanente du pays.
Bon. On est crédible que si on est déjà maître chez soi pour donner des leçons à l'extérieur. Autrement, on se tait.
Oui,
voilà.
Je ne suis pas tout à fait
d'accord. Je ne suis
pas d'accord.
Autrement, on est ridicule.
Tout en étant critique sur Emmanuel Macron.
On préfère parler diplomatie parce que c'est plus noble de parler diplomatie. Oui. Parler délinquance, c'est plus compliqué.
Enfin, écoutez, toutes les semaines, semaine dernière, c'était les quartiers de Nantes, là, c'est la Courneuve, ce pays, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je veux dire qu'on donne le spectacle que nous donnons. Deux frères devant le tribunal de justice qui ont voulu se faire justice. Noémie Schulz, on va voir votre sujet, parce que ça, c'est intéressant, si j'ose dire. Alors, est-ce qu'on a le temps ? Il est 9h23, on n'a pas le temps de le voir avant la mi-temps. Donc, on le verra après la mi-temps. Je salue Thomas Hill. Thomas, bonjour.
Bonjour Pascal.
Oh là là, vous avez mis une chemise aujourd'hui.
Oui, j'essaie de faire.
Ah oui, mais alors vous avez mis une chemise, on voit le t-shirt en dessous. Bon, c'est jeune.
Oui, c'est original. Hein.
C'est jeune. Bon, vous n'êtes pas allé voir jeune. Michel Sardou ce week-end?
Mais non, mais j'ai vu vos photos, vous étiez magnifique.
Ah, ben, tout à fait.
Est-ce que vous avez pris le RER?
Bien sûr, nous avons pris le métro, la ligne 1, pour aller jusqu'à Arches de la Défense, bien évidemment.
Quelle folie, Pascal.
Et croyez-moi, c'est plus rapide que n'importe quel taxi. Et si vous êtes sage, je vous raconterai notre retour en taxi avec Laurence Ferrari. Et bon, un taxi qui nous a pris où il y avait déjà deux personnes dedans qui étaient deux dentistes qu'on salue. On était six dans un taxi, ou cinq dans un taxi.
Parfaitement idée.
Et qui ont été très gentils avec nous. Donc on les remercie une nouvelle fois.
Tout arrive. Pascal Pro fait du covoiturage.
Exactement. Ben exactement. Parce qu'autrement, on était à minuit et demi, on était en difficulté. Merci Thomas. Thomas, bonne journée. Bonne journée à vous et bonne émission.
Il manquerait plus qu'on vous voit sur une trottinette.
Mais avec Laurent, je vous assure, on a ri. Au moins. Et le spectacle était formidable, on en parlera tout à l'heure, et c'était très émouvant. C'était très émouvant parce que c'est sans doute un de ses derniers spectacles. Et on vous a préparé quelques petites surprises de Michel Sardou pour la fin de l'émission. Il est 9h24. C'est le début de la semaine, hein ?
C'est lundi, hein ?
C'est lundi, comme dirait Jessie Garonne. À tout de suite. Il est 9h31 et c'est lundi, et l'indiscipline règne, comme d'habitude, sur ce plateau. Chacun fait des entrées, des sorties. C'est pas le théâtre ici.
Passez devant la caméra.
C'est pas, passez devant la caméra. C'est pas l'entrée court, entrée jardin. C'est un peu de discipline. Vous êtes les premiers à demander de la discipline à la France et vous êtes incapables de l'avoir sur ce plateau.
Et il y a des coursives.
Mais c'est juste
que moi, je nos entrées et nos sorties.
Bon, c'est Erwin qui donne de
cette opérette. Exactement.
Vous êtes bouffé, Philippe, vous êtes arrivé en retard lors du début de l'émission.
Mais quel...
Rapporteur quatre chandelles qui rapporte à sa grand-mère. Sa grand-mère lui donne des sous pour acheter des petits joujoux. Voilà ce qu'on disait quand on était enfant. Somaya Labidi, c'est à vous.
Après les violences, retour au calme à la Courneuve. 9 individus interpellés après des tirs de mortiers d'artifice visant le commissariat. Des incidents qui ont nécessité le déploiement de renforts sur place. Un nouveau drame près de Dijon. Un homme d'une vingtaine d'années est mort hier soir à Talent après avoir reçu plusieurs coups de feu. La piste d'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants est privilégiée. Et puis, à peine réélu, il brandit la menace d'une troisième guerre mondiale. Discours guerrier de Vladimir Poutine hier. Selon lui, le conflit en Ukraine n'est, je cite, qu'un pas de plus vers une troisième guerre mondiale à grande échelle.
Merci Somaya. Deux frères donc devant le tribunal parce qu'ils sont tentés de se faire justice. Ça sera cet après-midi, vous y serez d'ailleurs. C'est une fratrie, une sœur et deux frères qui comparaissent devant ce tribunal de Bobigny pour enlèvement, séquestration, vol et violence volontaire commise sur un homme. Donc je vous propose de voir le sujet et vous allez nous donner des informations.
En décembre 2022, le domicile de cette famille de 6 personnes est la cible d'un premier incendie volontaire. La famille dépose plainte, mais rien ne se passe. 6 mois plus tard, nouvel incendie. Entre-temps, le père a fait installer des caméras de vidéosurveillance. Sa fille est formelle, cette silhouette qui répand de l'essence sur les voitures est celle de son ex-petite amie. La famille retourne au commissariat.
Vous imaginez un peu l'incendie avec 6 personnes à la maison. On a failli partir, mourir, à des reprises. Et le pire, c'est quoi? C'est de la réponse que moi j'ai reçue du policier. Il me dit, monsieur, vous croyez qu'on n'a que ça à faire?
C'est alors que la jeune femme et ses deux frères dérapent. Ils enlèvent l'ancien petit ami, le frappent et le mettent dans le coffre d'une voiture. C'est ce qui leur vaut d'être jugés aujourd'hui.
Quand il y a un abandon à ce point manifeste par le service public de la justice et le service public de la police, c'est sûr que c'est une faille qui incite, qui facilite l'arrivée d'une justice privée qu'on regrette, que les clients regrettent. Mais ils ont le sentiment d'avoir été un peu poussés à l'erreur, ce qui n'excuse pas le passage à l'acte.
Maître Zaguri espère que les juges prendront en compte le contexte particulier du passage à l'acte et feront preuve de clémence. Il attend aussi de la justice qu'elle identifie formellement l'auteur des incendies et le renvoie devant un tribunal.
Que risque évidemment cette fratrie où on est l'enquête sur les incendies et on rappelle évidemment qu'on ne se fait pas justice soi-même.
Alors ils encourent, les faits sont graves, enlèvement, séquestration, vol aggravé et violence aggravée. Ils expliquent qu'ils sont allés donc dans la foulée
du deuxième incendie. Leur père tente de déposer plainte et la police refuse de prendre la plainte en disant qu'elle est submergée par les incidents de la nuit du 14 juillet. Et donc, ils décident d'aller au domicile de l'ancien petit ami pour, disent-ils, récupérer des éléments de preuve, notamment les téléphones, ses vêtements, parce qu'ils avaient peur qu'ils fassent disparaître les preuves. Ils sont renvoyés donc pour ces faits et les peines peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison. On le rappelle que dans cette affaire, vous aurez donc sur le banc aujourd'hui de la partie civile, donc du côté de la victime, ce jeune homme dont ils sont convaincus que c'est lui qui a mis le feu. Ce qui les met en colère aussi dans cette famille, ils admettent le fait qu'ils vont être jugés, qu'on ne se fait pas justice soi-même, mais ils disent clairement qu'il y a une affaire qui a été beaucoup plus rapide que l'autre. Ils ont dû déposer plainte avec constitution de partie civile en août dernier, c'est-à-dire pour forcer l'ouverture d'une information judiciaire avec un juge d'instruction pour enquêter sur ces deux incendies. Eux, ils estiment que c'est une tentative d'assassinat. Ils étaient chez eux, ils dormaient et que les choses auraient pu être très graves. Et dans cette affaire-là, dans cette enquête-là, l'avocat dit pour le moment, on ne sait pas s'il se passe des choses, s'il y a des actes d'enquête. En tout cas, on ne nous a absolument rien dit. Dernier point, le téléphone de l'ex-petite amie, cette nuit-là, a borné à proximité de leur domicile.
Oui, vous avez raison, on ne fait pas justice soi-même. Mais là, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle dans cette histoire. On parle beaucoup aujourd'hui de violences conjugales, de féminicides, etc. Un ex-petit ami qui est plus que toxique, qui essaye d'incendier deux fois volontairement la maison de son ancienne compagne et de sa famille, donc qui dans le but au moins de dégrader leur maison et peut-être de les tuer, que la police ne réagisse pas, qu'il y ait saturation et que cette famille se retrouve dans une solitude absolue, ce n'est profondément pas normal. Alors évidemment, c'est pas une incitation à se venger, mais il faut absolument que la justice tienne compte du contexte.
Bon, c'est vrai que aujourd'hui je n'aime pas égrener comme ça des faits divers ou des faits de justice ou des faits de police, mais l'actualité nous rapporte ces faits ces dernières 24 heures, ces dernières 48 heures. Et on va terminer cette page-là avant de parler politique, politique étrangère bien sûr, avec Dijon. Parce qu'à Dijon, il y a une enquête quand même qui se poursuit. Il y a un collégien de 15 ans qui avait été interpellé vendredi après avoir menacé sa principale avec un couteau. Encore un, qui a été mis en examen et placé en détention provisoire. 15 ans, détention provisoire. Le ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, se rend sur place ce matin. L'élève de 15 ans, on va voir le sujet de Mathilde Ibanez et ce qu'a dit le procureur. Et vous allez là aussi nous donner des précisions, Noémie.
Âgé de seulement 15 ans, ce collégien était déjà connu pour une altercation avec sa professeure d'anglais avant les vacances d'hiver. Exclu de son cours, le jeune adolescent s'y est quand même présenté vendredi avant d'être envoyé dans le bureau de la principale de l'établissement.
Le mineur lui remettait alors un courrier qui mentionnait notamment les termes suivants. Si vous lisez ce message, c'est qu'il y a une prise d'otage dans une de vos salles. Il disait avoir alors mentionné les attentats de 2015 dans son courrier pour donner du crédit à son projet.
Après la lecture de cette lettre, le jeune a sorti un couteau en direction de sa principale qui a pu fuir son bureau et déclencher l'alarme anti-intrusion. Dès lors, toutes les pièces ont été confinées, impossible donc pour l'agresseur présumé de retourner dans sa classe d'anglais. Bloqué dans le couloir, il a ensuite menacé avec son couteau un agent d'entretien avant d'être rapidement interpellé par la police présente à proximité.
Il semble acquis que les réactions parfaitement adaptées de l'équipe éducative du collège Édouard Herriot de Chenôve et l'intervention immédiate et très professionnelle de la police de Dijon ont permis d'éviter une situation beaucoup plus complexe, voire dramatique.
Lors de sa garde à vue, le jeune s'est livré à plusieurs explications différentes, non corroborées pour l'heure par l'enquête.
Il expliquait en réalité avoir été recruté par des connaissances qui avaient eu vent de ses difficultés avec sa professeure pour la tuer au sein du collège, elle et trois membres de l'équipe éducative.
Une information judiciaire a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire sur un enseignant, violence volontaire avec trois circonstances aggravantes, l'usage d'une arme, que les faits se soient passés dans un établissement scolaire et qu'il ait commis des préjudices sur des personnes chargées de service public. Le mineur a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il risque jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.
Bon, vous allez nous donner des précisions, mais moi j'aime bien mettre en perspective ce que nous faisons et ce que font d'autres médias. Et j'ai lu ce week-end dans Le Monde un papier que vous avez peut-être lu de Madame Yvan Trippenbach, qui est très intéressant, qui s'appelle « Affaire Enzo, les ressorts d'un fait divers ». Et finalement, la preuve de Crépole, c'est Enzo pour Madame Trippenbach. C'est parce qu'à Enzo, il y a eu peut-être emballement que ça prouve Crépole. Mais surtout ce qu'elle dit, et là on vient de faire dégrainer quelques sujets, moi c'est pas moi qui fais l'actualité, j'y peux rien. Elle dit « La mort d'un adolescent de 15 ans poignardé à l'été 2023 dans l'heure avait nourri le récit d'une France menacée par l'ensauvagement ».
chaque mot a un sens, avait nourri le récit d'une France menacée par l'ensauvagement. Elle n'est pas menacée, la France, elle est ensauvagée, je n'y peux rien. Amplifiée, entre autres, par les médias du groupe Bolloré. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes les cibles, je passe mon temps à le dire, les coups les plus durs sont donnés par les journalistes. Amplifiée par les médias du groupe Bolloré, une version aujourd'hui contredite par les éléments de l'enquête. Voilà ce que dit Madame Trippenbach. Donc, la bataille culturelle, elle va être très forte ces prochains mois. Et les journalistes, notamment, vont porter les coups les plus durs sur d'autres journalistes. C'est ce qui se passe chaque matin. Mais c'est formidable, d'ailleurs, ce papier. Lisez l'affaire Enzo. C'est la preuve de Crépole qu'elle nous fait par Enzo. Je trouve que c'est magnifique quand on en est rendu à ce type de raisonnement. Mais je vous donne la parole, Noémie.
Non, ce qu'on a appris de la conférence de presse du procureur hier, c'est que sur les motivations, en toute fin de garde à vue, ce jeune a effectivement apporté une nouvelle version en disant avoir été recruté par des connaissances pour tuer la professeure et trois membres de l'équipe éducative. Donc là, il y aurait une dimension vraiment de préparation terroriste. Le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de cette affaire. Ça semble assez peu crédible, c'est ce qu'a dit le procureur. Et la piste qui est privilégiée, c'est celle d'un jeune qui était visiblement très remonté, très en colère contre sa professeure d'anglais. Il avait été exclu de son cours, il n'avait plus le droit d'y retourner. Il a tenté d'y aller vendredi, elle l'a envoyé chez la principale. Et là, effectivement, il s'est présenté, il avait préparé, il avait ce courrier dans lequel il disait, si vous lisez cette lettre, c'est qu'il y a une prise d'otage. Et il mentionne...
Et alors ça, c'est un fait divers ou c'est un fait de société?
Pour moi, c'est un fait de société.
Ah oui.
Mais enfin, un professeur avec un couteau, les attentats de 2015 dans sa lettre.
Non, mais c'est tout le sujet qu'on va avoir ces prochains temps.
Contre le fait divers.
Mais pourtant, ce qu'il faudrait dire, j'ai pas lu l'article du Monde que vous citez, mais quelqu'un comme Alain Bauer est quand même très clair. Il dit depuis 20 ans, il y a une inversion de la tendance historique dans nos sociétés. La tendance historique était à la baisse de la violence. Depuis 20 ans, elle remonte à travers les
homicides. Oui, mais ils ne veulent pas le voir pour des raisons idéologiques.
Oui, mais c'est
pourquoi
ça, justement.
Parce
c'est
que ça, à chaque fois, pourquoi Mme Trippenbach et d'autres ne veulent pas voir ce qui se voit?
Parce
pourquoi
que ça gêne leur représentation.
Mais parce que c'est une violence qui n'est pas qualifiée. Enfin, on voit bien, je suis désolée, on attend les résultats de l'enquête, mais là, il y a beaucoup d'éléments déjà. Le couteau, qui rappelle d'autres éléments qui n'étaient pas des faits divers. Pourquoi? Parce qu'ils relèvent de ce qu'on a appelé le séparatisme. Ça peut être la logique du clan, la logique après.
Là, on n'en sait rien.
Comment ?
Là, en l'occurrence,
non, mais
on n'en sait
rien. C'est pour ça que je parle d'autres éléments comparables. Là, je dis qu'il y a des éléments qu'on nous a donnés, on verra. Noémie vient elle-même de nous dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui ressemblaient à une préparation terroriste, je crois que vous avez...
Non, justement, j'ai dit que... En toute fin de garde à vue, il a laissé entendre que c'était peut-être ça, mais rien ne permet de l'étayer. On est plutôt sur... pas le sentiment que ce jeune avait des revendications, qu'il était contre le système éducatif français.
Il parlait quand même de 2015, non ?
Ça fait 40...
De 2015, sans doute, a dit le procureur, pour donner du crédit à son projet.
Parlons d'autre chose. Ça fait 40 minutes que nous parlons de l'ensauvagement de la société. C'est très intéressant, d'ailleurs. En fait, nous venons de donner une photographie de la France telle qu'elle est aujourd'hui. Elle n'est pas que ça.
Non, elle n'est pas que
ça. Bien sûr, elle n'est pas que ça, mais elle est aussi ça. Et effectivement, de l'extérieur, on a tous des amis à l'étranger. Il y a des gens qui disent on vient même plus. On vient plus.
Ce qui me paraît excessif. Mais il y a une augmentation de la violence.
Demande aux supporters anglais.
Allez, c'est fini. Glucksmann, je vais remercier Noémie Schulz, vraiment grandement Noémie Schulz. Et on va recevoir notre ami Jean-Marie Roir, qu'on aime recevoir.
Jean-Marie Roir, vous devrez me mettre mes fiches plus loin.
Parce que comme ça, je devrais les poser plus loin encore. Jean-Marie Roir, qui avait écrit Emmanuel Macron, est un tartuffe de la langue française à Villers-Cotterêts. À Villers-Cotterêts City, avait-il écrit le 30 octobre dernier dans le Figaro. Parle pas comme ça du président de la République, s'il vous plaît. Monsieur Roir, venez à confesse. Jean-Marie Roir, Emmanuel Macron, tartuffe de la langue française. Parce que c'est la semaine de la langue française.
Oui. Eh bien,
bonjour.
En effet, bonjour.
Donc, on en parlera dans une seconde.
c'est rapide.
Hein. Oui, c'est le concept de l'émission.
C'est une école de la frustration.
Vous coupez le sifflet dès le départ.
Merci, Jean-Marie.
C'est un concept. Hein.
Bon, d'abord, ça me fait plaisir que vous soyez là. Vous allez bien ?
Je suis ravi. Moi, je ne pense qu'à ça.
Oui, j'imagine. mais pourquoi vous dites Tartuffe ? Il s'exprime bien, le président.
Alors, je vais répondre. Tartuffe, parce que cette opération... C'est une opération de com, de communication. Parce que s'il y a un homme qui, par ailleurs très sympathique, le président Macron, mais qui a maltraité la langue française, c'est lui. Alors, il va créer une entité.
Il a pourtant quelqu'un qui peut le conseiller sur la langue française, quand même, Madame Macron, qui est professeure de français.
Écoutez, vous avez bien vu comment le président s'est comporté. Il a parlé de Choose France, il a parlé de Startup Nation, et il crée à Villers-Cotterêts une entité qui ne servira à rien.
Mais moi, ça, c'est son job de faire des trucs qui ne servent à rien, le président de la République. Il a été élu pour ça.
Ça a coûté 210 millions d'euros qui ont été puisés sur les instituts culturels qui sont en pleine déshérence. Donc, en ce qui concerne la francophonie et l'influence du français dans le monde, c'est une régression. Donc, moi, je dis,
pourquoi ça ne sert à rien ?
Bien, à quoi ça servira ?
Oui.
Eh bien, il y a une expression qui était merveilleuse sur une grande institution culturelle. On disait, c'est un fromage sur un nuage. Eh bien, Villers-Cotterêts, c'est un fromage sur un nuage.
Mais les gens ne savent même pas ce que c'est que Villers-Cotterêts.
Attendez, ça sert à beaucoup de linguistes dont on ne sait pas quoi faire, à beaucoup de gens.
Et ça sert, dites-nous, expliquez-nous, parce que les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas de quoi je parle. Villers-Cotterêts, qu'est-ce qu'il a créé ? Dites en deux mots.
Villers-Cotterêts, c'est un château. C'est là où il y a eu la fameuse déclaration sur la langue française.
Nous sommes d'accord.
Voilà. Donc, c'était l'anniversaire. Donc, c'est le départ de la langue française. Mais la langue française, qu'est-ce que c'est ? C'est pas, on ne peut pas en faire un musée. Il y a un vieux parchemin. Ça ne sert à rien de faire
d'accord.
Un musée. Ce que c'est la langue française, c'est la langue que nous parlons tous les jours. Et c'est la langue que parlent, en effet, les
écrivains. Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Vous avez vu que Laurent Fabius veut être académicien, immortel.
Oui, alors, on change de sujet.
Oui, ça c'est le principe. Quand ça m'ennuie un peu, je change de sujet. Laurent Fabius.
Moi, j'ai un devoir de réserve. Ah. Néanmoins.
Il va écrire sa petite lettre.
Puisque je suis chez vous, je peux me lâcher un peu.
Oui.
Non, je crois qu'il a eu tort.
Ah.
Je crois qu'il a eu tort.
Donc ça ne rentrera pas.
On n'a pas encore.
Laurent, si tu nous écoutes.
Il aurait fait mieux de venir me voir. Je lui aurais dit, parce que c'est un homme sympathique, je le connais.
Oui, bien sûr.
En effet, qu'il se présente à l'Académie, bon, c'est tout à fait normal
d'étudier
son parcours, il est normalien. Et là, il commet une énorme erreur.
Oui.
C'est qu'il est en train de politiser l'Académie.
Vous avez eu Giscard.
C'est pas le premier politique, oui.
Vous avez eu le maréchal Pétain, excusez-moi. Franchement, l'Académie française, vous n'avez pas de leçons à donner.
Est-ce que vous voulez que je réponde ?
Non.
C'est ma place.
C'est moche.
Moi, je veux plus dire ma place.
Vous avez eu le
maréchal. Le maréchal Pétain, je vous signale qu'elle a été reçue par Paul Valéry en 1936.
Et qu'à
ce moment-là, c'était un homme de gauche et que ça n'avait rien à voir.
Le maréchal Pétain, un homme de gauche ?
Bien sûr. Il a été nommé par le peuple.
Attendez. Quand même pas.
C'est un autre sujet.
C'est un autre sujet.
Pour rester. Voilà,
donc Fabius, il n'a aucune chance.
Attendez, non. Pas du tout, mais je dis.
Là, c'est
ce la maldonne. C'est une maldonne. C'est une maldonne parce que, d'abord, il est en exercice, il est président du Conseil constitutionnel.
Oui.
Et il veut se présenter au siège de Valéry Giscard d'Estaing. Donc, et vous savez qu'en matière à l'Académie, nous avons un certain nombre de principes, mais qui sont des principes très sages. On veut pas de politisation.
Mais c'est pas.
Il y a pas.
Attendez, président du Conseil constitutionnel, c'est un homme qui c'est un sage. Il n'est pas partisan a priori.
Non.
Bon, attendez, on en parlera tout à l'heure.
Vous avez vu
jamais
les déclarations.
Il n'est plus élu.
En fait, à l'Académie, il faut que des ringards. C'est comme ça qu'on rentre.
Comment est-ce qu'on peut maintenir à l'Académie française justement cette absence de politisation qui est très importante parce que vous savez non. On est tous d'opinions différentes à l'Académie. On s'entend très très bien parce que jamais la politisation n'est interdite.
Madame Agazinski, elle est rentrée. Oui. Vous n'aviez pas voté pour elle, vous ne l'aimez pas.
Mais si, mais moi je vote. Je suis pour le.
Mais vous ne l'aimez pas quand même.
Démocratique.
Vous trouvez qu'elle n'avait pas sa place.
Et après tout, c'est une femme tout à fait.
Charmante aussi. Tout le monde est charmant.
Qui a plein de qualités.
Mais sûrement. Non. Enfin, vous n'avez pas voté pour elle quand même.
Mais comment vous savez
mais parce que je fais, vous m'avez dit.
Vous en savez. Ah non, c'est faux.
Bon. Monsieur Glucksmann, Raphaël Glucksmann.
Vraiment, vous êtes un dénonciateur.
Oui, c'est là. J'écris le soir, comme Mara. Je fais des listes, comme Mara. Hop, j'envoie. Raphaël Glucksmann boycotte CNews. La tête de liste du PS public, place publique aux européennes, ne se rendra pas au grand débat organisé par CNews le 30 mai, estimant que la chaîne est une chaîne d'opinion qui promeut des thématiques d'extrême droite. Bigre. Est-ce que nous pouvons écouter ce qu'a dit monsieur... Il a dit ça, oui, monsieur Glucksmann a dit ça. Alors c'est intéressant parce que ça montre au moins une chose, c'est qu'on peut être dans un couple et que les femmes ne pensent pas comme leur mari. Parce que madame Léa Salamé, elle ne pense pas ça,
parce qu'elle invite sur son plateau précisément les gens de CNews. Et régulièrement, elle m'a demandé de venir. Je n'y suis pas encore allé. Mais par exemple, Sonia est allée, Laurence Ferrari est allée. Absolument. Donc, et elle promeut les gens de... Quoi, elle promeut. Donc elle promeut, elle selon son mari, des thématiques d'extrême droite. Et elle ne leur dit pas que c'est des gens d'extrême droite quand elle les reçoit. Donc ça, je trouve que ça montre que l'évolution des couples, on peut être marié et ne pas penser comme son mari.
Est-ce que vous avez vu le tweet du président de la commission ?
Oui, bah justement, je vais le montrer en fait.
Eh bien, très bien.
Merci. Et on va écouter Raphaël Glucksmann. Et après, vous pourrez commenter à tout de suite.
Écoutons. CNews n'est pas une chaîne d'information comme une autre. C'est une chaîne d'opinion qui promeut des thématiques d'extrême droite et que donc je ne compte pas m'y rendre. Il me semble que ce serait cautionner une chaîne qui promeut une idéologie que je juge, moi, extrêmement dangereuse. C'est une chaîne qui a été condamnée par la justice, qui a fabriqué Éric Zemmour. Enfin, je veux dire, c'est pas
mais
anodin.
C'est une chaîne qui a des téléspectateurs.
Bien sûr,
ces
bien
téléspectateurs,
sûr.
Vous ne souhaitez pas leur parler.
Simplement, moi, je ne vais pas faire la démarche d'aller cautionner une idéologie que je juge dangereuse.
Je précise que CNews n'a pas fabriqué Éric Zemmour et je me demande qui a fabriqué Raphaël Glucksmann, en revanche, si vous me permettez. Quentin Bataillon.
C'est une tristesse.
C'est une tristesse. Boycotter
c'est
ce
fou,
débat
c'est
revient
à. C'est une chef d'opinion qui vient de donner la sienne.
Pardon.
Et pas Quentin, de... mais parce que. Mais c'est vos amis de gauche.
Enfin, mes amis.
Quentin Bataillon, boycotter ce débat revient à pousser l'ARCOM à.
Je suis un traître de venir ici. Donc, quand vous dites mes amis, je nuance.
Boycotter ce débat. De toute façon, ils sont à moins, madame, aux dernières élections. On va voir ce qu'il va faire, monsieur Glucksmann.
Ah, il fera mieux.
Il peut pas faire.
Il a plus de talent qu'Anne Hidalgo.
Il peut pas faire moins bien qu'Anne Hidalgo. Autrement, non. Là, il
ça,
se retrouve.
Ça bon, dur, hein.
Boycotter ce débat revient à pousser l'ARCOM à retenir un régime dérogatoire pour CNews qui se retrouve empêché de respecter les règles du pluralisme. Bref, on marche sur la tête. Là, le débat, la démocratie, c'est partout. Avec tous et pour tous, c'est Quentin Bataillon. Mais quand je dis qu'on est dans une polarisation médiatique, politique, bah, on en a.
Il faut dire
l'expression. Philippe Guibert. Et puis après, Elisabeth.
Non, c'est-à-dire qu'il considère qu'il ne peut pas venir donner son opinion sur CNews tout en reprochant à CNews de ne pas être pluraliste. Ce qui est. Alors d'abord, c'est première contradiction.
Allez, la pause.
La pause,
je suis en retard.
Ça ne vous intéresse pas.
Si, mais je suis en retard et c'est de ma faute. Il est 9h52, il faut bien vivre, comme disait Feu Thierry Roland. Oui, c'était intéressant. Soyez gentils, respectez la pause.
Nous vous respectons, cher Pascal.
Et nous arriverons à l'heure.
Allez, encore un petit mot. La pause. Soumaïa Labidi nous rappelle les titres.
Nicole Belloubet au chevet du corps enseignant, la ministre de l'Éducation attendue au collège Édouard Herriot de Chenôve dans quelques minutes. Établissement où un élève de 15 ans a menacé la principale avec un couteau vendredi dernier. Une scène digne d'un film d'action, fusillade en plein jour à Avignon. Sur ces images amateurs, on voit plusieurs tireurs qui se font face et ouvrent le feu. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Et puis l'hôpital Al-Shifa ciblé par l'armée israélienne, demande d'évacuation des civils lancés, échange de tirs nourris et combat depuis l'aube. Selon Tzahal, des hauts gradés du Hamas se serviraient de l'enceinte comme bouclier.
Merci Soumaïa. Et en préparant, vous voyez l'émission avec Benjamin Nau, parce que ce matin Marine Lançon était à Copenhague. J'ai pas voulu mettre la fusillade d'Avignon, parce que j'ai dit c'est trop. Quoi. On a parlé de la Courneuve, on a parlé de l'agression et de la mort de ce pauvre père de famille, des deux frères au tribunal, on a parlé de Dijon. Et c'est pas Dijon. Voilà, c'est trop. Qui voulait réagir sur Raphaël Glucksmann?
Non, moi,
tout à l'heure, c'était
dire,
vous.
Je voulais réagir sur
le tweet de M. Bataillon,
parce que je me rappelle que pendant.
Qui est le président de la commission qui nous avait reçu d'ailleurs et qui a été avec beaucoup d'intelligence, d'honnêteté et de.
Oui,
de charisme personnel, a su mener les débats avec intelligence et souplesse.
Oui. Et je me rappelle notamment ce moment où il vous a, je crois vous, peut-être Laurent, je ne sais plus, accusé de fake news parce que nous avions été beaucoup à dire ici que, évidemment, c'était une décision contre CNews, même si dans la décision, il est évidemment question de tous les médias. Et que dit M. Bataillon, qui a dit que non, pas du tout, ça ne concernait pas du tout CNews. Et vous lui avez d'ailleurs répondu, écoutez, bon, et que dit-il là? Il dit, vous rendez compte que ce Glucksmann, cet idiot de Glucksmann, va empêcher, en fait, l'ARCOM...
Je vais enlever le mot idiot, si ça ne vous ennuie pas.
J'ai dit idiot à quel sujet?
Vous venez de dire, c'est idiot de Glucksmann, donc...
Excusez-moi. Il dit pas idiot. Alors, c'est pas ce qu'il dit. Il dit que ce Glucksmann leur a planté leur stratégie. Voilà.
Bon, bah écoutez, donc voilà, vous vouliez dire non, bah, on est tous d'accord, donc oui, je suis même pas sûr. Je vais vous dire, mon petit doigt me dit que lui-même n'est pas tout à fait sur
cette position. Non, mais on n'a pas dit. On a pas dit.
Ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il y a une, à mon avis, il y a une sorte de stratégie de sa part, c'est qu'il est très très attaqué par toutes les autres.
Bien sûr.
Gauche qui lui reproche.
Bah non, pas la France Insoumise. Voilà. La France Insoumise vient sur CNews.
Il est tenu.
Manuel Bompard. Donc il était là hier. Fabien Roussel était là la semaine dernière.
C'est que, et moi c'est ce qui me désole.
Il est tenu, ça s'appelle. Il n'a pas de courage.
Par les écologistes. On a toujours.
Il est tenu, monsieur.
C'est Marie Toussaint, la tête de liste écolo, qui appelle au boycott de CNews. Et donc il cède aux écolos.
Nathan, il est tenu. La NUPS.
Oui, je pense qu'il y a un peu...
Les petits commissaires du
peuple. Parce qu'il est dans une situation, au demeurant, très sûr. Délicate dans ces européennes, où il y a des cibles d'attaques qui sont hallucinantes. Mais il y a une représentation derrière du débat, qui est le débat comme la complaisance, comme la compromission, comme le fait de s'allier. C'est oublier que le débat, c'est le moment du dialogue, du combat aussi, du combat poli, du combat civilisé, du combat amical, mais du combat des idées. Et si vous voulez, moi, ce qui me navre, c'est que derrière, il y a cette idée que la politique, c'est prêcher des convaincus. C'est parler déjà à un électorat qui est d'accord avec soi, réveiller une sorte de, non pas de meute, mais de groupe qui est déjà préparé.
Le socle.
Il me semble que ce qui est intéressant dans la politique, oui, le socle, que ce qui est intéressant dans la politique et dans la vie démocratique, c'est précisément le contraire. C'est d'aller parler à des gens avec qui on ne partage aucune idée. C'est ça qui est fécond et qui est fermé.
On a tout dit sur ce sujet. On va parler évidemment largement de Vladimir Poutine. Simplement, puisque ça fait beaucoup réagir, l'affaire Laurent Fabius que vous avez trucidé là. En direct, en disant...
Pas du tout.
Il est
sur... expliqué, mais avec vous, toute explication
il est que... d'abord polémique. C'est le fauteuil. C'est le fauteuil de Giscard.
C'est trop long.
Bon, voilà, c'est quel numéro de fauteuil?
Je ne sais pas quel est le numéro.
Ah, c'est le 16.
Pas tous les numéros.
Mais attendez, c'est le fauteuil 16, mais c'est le fauteuil de Richelieu. C'est le fauteuil de Richelieu. Et vous savez qui était... C'est le fauteuil de qui également? Charles Maurras.
Oui.
Alors, oui, qui était un peu trop...
Mais avec le Fabius,
on va pas remonter, on va pas faire la généalogie de l'Académie française.
Non,
le problème...
vous avez eu des bons éléments.
Le problème,
Maurras,
le
Pétain...
Problème, me semble-t-il. Revenons au sujet. Que là, vous partez... Vous êtes un éparpilleur de conversations, comme on dit Madame Bidet du Devant les dames. Elles sont des éparpilleuses de conversations.
Très jolies.
C'est pour ça qu'elles ne les invitaient pas dans ces fameux déjeuners. Non, le problème de Fabius, qui est un homme tout à fait estimable, pas la question. La question, c'est qu'il se présente au fauteuil de Valéry Giscard d'Estaing, alors que c'est une tradition très sage de l'Académie. Il n'y a pas de dévolution. C'est-à-dire qu'un maréchal ne remplace pas un maréchal, un général ne remplace pas un général, un homme d'église ne remplace pas un homme d'église.
Giscard a remplacé Senghor.
Alors, Senghor, c'était un poète qui était au Sénégal. C'est pas une dévolution.
Accessoirement, le président du Sénégal.
Il faut avoir un peu de bon sens. Ça vous ferait du bien.
Giscard a remplacé Léopold Senghor.
Vous imaginez l'atmosphère de l'Académie avec un discours.
Atmosphère.
L'éloge de Fabius.
J'ai une gueule d'atmosphère.
Je veux pas rentrer.
Il y a la première fois qu'on traite d'atmosphère.
Ce sont des ennemis politiques. Alors que
ça, c'est un argument.
Ce sont des ennemis politiques. Alors que le but.
Mais attendez, ça fait longtemps.
Je veux dire qu'on change complètement. Que ça se transforme en bordel complet, un peu comme ici. Bon, d'accord, mais ça sera quelque chose complètement différent.
Sortez. Vous avez du bordel, sortez.
Là-bas,
il est trop à gauche. En résumé, Laurent Fabius est trop à gauche.
L'Académie,
si j'ai bien compris.
A des défauts. Mais il y en a un qu'elle n'a pas.
Oui.
C'est justement que le débat politique n'est jamais rentré à l'Académie.
D'accord. Voilà. Donc Laurent Fabius, s'il nous entend, qui garde.
C'est ce qui fait que c'est tellement agréable.
Franchement,
rappelez-vous l'élection d'Alain Finkielkraut. On nous avait expliqué que le RN rentrait à l'Assemblée. C'était Danielle Salnave, autre académicienne. Rappelez-vous, des polémiques qu'il y en a eu.
J'ai un avantage sur vous, c'est que j'y étais. Je peux vous dire que ça s'est passé comme une
étape.
L'élection, oui, mais avant.
Il y a combien de fauteuils vacants en ce moment?
5.
Il va falloir recruter.
Ça vous laisse une chance, Pascal.
Présentez-vous.
Ah ben sûrement.
Il y a un peu de courage.
Je pense que.
Vous avez fait une chronique vraiment sentimentale qui était l'amorce d'un roman et l'amorce d'une candidature à l'Académie. C'est comme ça que j'ai dit. Ben, vous savez très bien, vous faites du Giscard.
Oui, franchement.
Au revoir.
Décidez de le présenter à l'Académie française. Oui.
Personne ne voterait pour moi, hélas. Moi, je veux bien. Et puis, franchement, ça apporte quoi d'être à l'Académie? Je me voyais avec un habit vert et un bicorne sur la tête.
Mais vous avez remarqué que.
Pourquoi pas, oui, pourquoi pas.
Vous avez remarqué que Giscard a une postérité littéraire. parce qu'il avait écrit un roman sur un président qui
la passagère
avec
la passagère une, non une, le passage
avec,
une
princesse Lady Dean
le princesse, passage oui.
Et vous avez vu que Marlène Schiappa s'est lancée dans le même genre littéraire apparemment
oui, non, mais...
une romance ah, politique
un peu plus érotique
donc bon, oui. Un peu plus hard.
Il venait souvent Giscard, il était sympa Giscard.
Bien sûr, bien sûr.
Il était sympa. C'est que cette question.
Faire le président de Giscard.
C'était cool.
Ça a été un grand président. Avec
je suis d'accord.
Difficulté parlementaire.
Je suis d'accord.
Position, il a fait. Ça a été le plus grand des réformateurs.
Je partage votre avis sur Valéry Giscard d'Estaing. Jean-François Killy, France Info, on a beaucoup parlé, qui suspend ses journalistes. Jean-François Killy a été suspendu à titre conservatoire en raison de sa contribution supposée à la future autobiographie de Jordan Bardella, qui n'est jamais sortie d'ailleurs.
J'ai menti.
Alors, je cherche le radio. Quand Reporters sans frontières n'a toujours pas tweeté.
Bah, il est malade, Christophe Deloire. Ça, c'est pour ça qu'il n'a pas pu aller à la commission d'enquête.
Mais oui, mais Reporters sans frontières devrait quand même se préoccuper de la sorte du sort de ce confrère. Alors j'ai vu que Sybil Veil a été interrogé. Nous l'avons suspendu à titre conservatoire afin qu'il clarifie rapidement la situation et nous explique ce qui s'est réellement passé. À ce stade, nous manquons encore d'éléments. Mais on le vire de l'antenne.
Et elle dit surtout que ça ne s'applique pas à lui, parce que c'est le RN. Elle dit que ça s'applique quelle que soit la personnalité politique. C'est complètement faux.
Oui.
Vous refaire la,
ah oui,
la
refaites.
Liste. Alors, je refais la liste.
Refaites.
Alors, puisque
tous
je vous
l'avais envoyé. Tous ceux qui ont, comme M. Askolovitch, qui a écrit des...
Alors, Claude Askolovitch, livre d'entretien avec Manuel Valls en 2008, avec Rachida Dati en 2007, avec Éric Besson en 2007, Edoui Plenel, qui vient de sortir de Mediapart, livre d'entretien avec François Hollande en 2016.
Oui, mais il n'était pas à France Inter à ce moment-là, peut-être.
Non, mais je cite des journalistes qui ont écrit des livres d'entretien. Cécile Amar, journaliste à France TV, livre d'entretien en 2017 avec Jean-Luc Mélenchon. Alain Duhamel, livre d'entretien avec Lionel Jospin en 2002. Peu importe le média dans lequel ils étaient à ce moment-là, c'est des journalistes.
Je suis d'accord.
Ils préviennent que c'est pas nouveau d'écrire un livre d'entretien avec un politique.
Mais ils préviennent.
Mais là,
il a pas vu le jour.
En l'occurrence, oui, non, mais
il a pas vu le jour.
Mais je veux dire, le problème, c'est que le livre est pas sorti. Donc on en est. Mais attention, les commissaires du peuple de France Inter, ça rigole pas. Hein.
Le monde est fou.
Les syndicats, les patrons ne servent à rien. Faut le savoir. C'est pas eux qui décident. Ils sont là pour. S'ils rentrent dans la moulure de leur rédac, ils sont virés. C'est ça la réalité. Et Madame Veil, tout ça, ce sont des otages. Des gens, ils ne décident rien. C'est comme Monsieur Glucksmann, d'ailleurs. Ces gens qui sont tenus. Ils sont tenus et ils sont là pour ça. Et si tu n'es pas tenu, t'es viré.
Mais il y a autre chose.
Là, en l'occurrence,
viendrait à France Inter, le patron, dire écoutez, Akili, non, je ne le vire pas, dehors.
Ouais. Non, mais.
C'est le principe.
Mais il ne peut pas le virer. Oui. Il vaut prud'homme, il prend un gros chèque.
Mais pardon, il y a le rôle du monde. Il y a le rôle prêté au monde d'arbitre.
Ils vont le virer.
Le monde dit un truc, c'est décidé que c'était une vérité, personne ne l'a vérifié.
Exactement.
Mais c'est dingue.
C'est dingue.
Mais
c'est
dingue. Le monde est devenu une espèce d'arbitre des élégances morales.
Je vous assure, c'est dingue en fait. Oui. Dire que le directeur de la rédaction de France Info accepte ça, c'est scandaleux.
Et la société des journalistes.
Et la société des journalistes.
En fait, il a eu le temps de discuter avec Jordan Bardella.
Non, mais c'est scandaleux.
Comme il discute avec toutes les personnalités politiques depuis 25 ans.
C'est un scandale.
Professionnel reconnu.
C'est un scandale.
Il a écrit. Histoire de fou.
Bien sûr, c'est une histoire de fou. Mais je comprends, c'est là encore, hein, c'est le privilège rouge, le totalitarisme de gauche. On a tout là-dedans, comme toujours. France Inter, le ministre de la Culture devrait s'en... Madame Rachida Dati, elle pourrait dire quelque chose, me semble-t-il. Hein. Je n'ai enfreint aucun règle professionnelle ou déontologique. J'ai échangé avec Jordan Bardella, comme je le fais avec tous les responsables politiques depuis 25 ans. Nous avons parlé à sa demande, ce que pourrait être une expression pour un livre d'entretien. J'ai refusé le projet. Depuis quand les journalistes politiques ne peuvent-ils plus échanger avec l'ensemble des responsables politique. Je suis abasourdi par la brutalité de la mesure injustifiée prise par la direction de France Info à mon encontre, qui nuit gravement à ma réputation.
Alors, ce qu'il devrait faire, c'est pas employer le mot échanger, parce que je vous signale que tout le monde le fait, mais le verbe échanger est un verbe transitif. Comme le verbe débuter, ce sont les verbes, c'est pour vous indiquer.
Collaborer.
Dans quel état est la langue française. La langue française.
Il a raison.
C'est effrayant, et de la part des hommes politiques. Et
parce que
pas ici.
J'ai échangé.
Quelle faute de français a-t-il dit?
J'ai échangé avec.
On n'échange pas avec, c'est ce que vous voulez dire?
Mais non. On échange quelque chose contre.
La meilleure.
Débuter. Vous entrez partout. On va débuter notre descente en avion.
Non. Ça, vous avez bien débuté votre descente en avion.
Vous avez vu l'opprobre? Est-ce que vous avez vu l'opprobre?
Non, arrêtez ça. Je veux pas. Arrêtez.
Pourquoi?
Parce que c'est pas gentil.
C'est pas gentil.
On peut se tromper.
Deux fois? L'opprobre. Avec l'opprobre, j'aurais fait la même chose sur ce plateau, vous m'auriez refusé l'accès pendant 10 ans.
Il y a quelque chose de pire, il y a quelque chose de pire que de tomber sur un mot. Ça arrive à tout le monde.
C'est l'expression là, c'est
pas ça. Ça n'arrive pas ici parce que faire des gens très.
Non, mais débuter, moi je le savais.
Néanmoins, ça arrive à tout le monde. Mais ce qui est pire, c'est l'institutionnalisation dans les mondes politiques du franglais. Ça, c'est très grave.
Je suis d'accord.
C'est très grave.
Mais là, c'est pas se tromper sur un mot.
On parle de Poutine.
Sur la langue française,
on parle de Poutine.
Vous censurez.
Non, non, mais vous avez parfaitement raison. Non, mais vous avez parfaitement raison. Débuter, je veux dire, moi, je le sais pourquoi, parce qu'il y a 25 ans, il y a quelqu'un qui m'a écrit un jour une lettre. Je disais toujours en football, machin, débute le match, etc. Et il y avait un prof qui regardait Téléfoot qui m'avait dit, monsieur Pro, débuter est intransitif, on ne débute pas quelque chose, on débute à 18h, mais on commence un match. Bon, depuis, je ne l'ai pas oublié.
Oui, je suis plus utile quand même.
Mais bien sûr, vous êtes utile. André Roussin disait sur l'Académie française, si je suis élu, je deviens immortel. Si je ne suis pas élu, je n'en mourrai pas. C'est drôle.
Mais bien, bon, mais c'est Poutine. Tout à fait juste. Bien. Écoutez, Balzac, moi, quand j'ai été élu à l'Académie, m'a dit, vous êtes heureux ? J'ai dit, non, je suis inquiet. M'a dit, mais pourquoi êtes-vous inquiet ? Je suis inquiet, j'ai eu 16 voix de plus que Balzac.
Oui, mais vous répétez toujours la même chose. Ça fait 10 fois que je vous me le dites. À chaque fois que vous venez, je le sais.
Et moi, je le sais.
Ah, je répète parce que quelquefois, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Ah bah...
D'abord, vous avez raison, je ne comprends pas tout.
C'est normal.
Moi, je suis journaliste, je ne suis pas académicien.
Oui, oui. Mais ça viendra. Non, on peut ça passer viendra de l'un à l'autre.
Éparpilleur de conversation.
Éparpilleur, c'est génial.
Ça, c'est
en fait,
beau, ça.
On se voit de temps en temps. Vous êtes beau, d'ailleurs, quand je vous vois en jogging.
En tutu.
Vous êtes en jogging.
Prenez des mots français.
Bah en quoi ?
Je vous ai dit que j'étais
survêtement.
Je le vois le dimanche matin en survêtement
de sport.
Survêtement avec des tennis. Mais c'est, comment dire, des tennis avec de la poussière d'ocre parce qu'il ne joue que sur terre battue, cet homme-là.
Bien sûr, c'est normal.
Et il attend son ami Olivier Orban qui vient de chercher et tous les deux.
Pas ma vie quand même.
Bah, si, et tous les deux vont jouer au tennis le dimanche matin. Je voudrais vous voir jouer au tennis, mais bon, ça c'est autre chose. Je veux dire. Et il revient.
Plus final qu'à l'académie, il n'a pas les masques qui jouent au tennis.
Bien sûr. Et tous les dimanches matin, Monsieur Rouard fait son tennis. Bon, je ne sais dans un endroit que je ne citerai pas, mais
oui,
bon, c'est un club un peu fermé, quoi.
Un peu fermé, mais. Tous les clubs sont fermés. C'est quoi les clubs sont fermés.
On va dire un
t'es à l'académie, tu joues au tennis dans un truc.
Vous n'allez pas faire les démocrates.
Poutine.
Ici, c'est un club fermé.
Ah non.
Moi, je suis invité de temps en temps.
Ah non, c'est un club complètement ouvert ici.
La parole.
Ah bah, ne dites pas ça. C'est un club complètement ouvert, mais les gens ne veulent pas venir. Nous, c'est un club de temps en temps qui accepte tout le monde. C'est le contraire du club fermé. Nous, on a des gens, ils disent non.
Non, allez.
Bon, allez, Poutine. Poutine sur sa victoire.
Passons aux choses futiles.
Exactement. Vladimir Poutine, réélu. Alors,
oui, bien réélu, dis donc. Hein.
Bien réélu.
Moins bien que Stéphane Bern.
Il a fait à peine plus que Jacques Chirac en 2002.
Bon, écoutons-le.
Non, mais c'est vrai qu'on aurait préféré. On aurait
écoutez,
préféré
pardonnez-moi, celle-là,
un score à trois chiffres, c'était mieux.
Non, mais sérieusement, là, l'instant est dramatique. Donc, trêve de baliverne. Bon, écoutons Vladimir Poutine.
Je tiens tout d'abord à remercier les citoyens. Nous sommes tous une seule et même équipe. Tous les citoyens de Russie qui se sont rendus dans les bureaux de vote et qui ont voté. Et bien sûr, aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles nous vivons, un remerciement particulier à nos soldats, à ceux qui, sur la ligne de front, fournissent au pays les conditions de son développement et de son existence.
Bon, ça c'est sur sa victoire. Alors d'abord les conditions de sa victoire. Il n'y avait pas d'adversaire ou toute la Russie est avec lui ?
Non, mais il y avait trois adversaires subalternes. Si vous voulez vraiment rentrer dans le détail, il y a une petite surprise quand même dans le scrutin. Il y a deux surprises. Il y en a une vraie qui est la participation qui était forte. Même à Paris, moi j'étais stupéfait de voir que sur devant l'ambassade de Russie à Paris, vous aviez une queue qui faisait presque un kilomètre. Il fallait 4 heures pour aller mettre son bulletin dans l'urne. Alors, je sais bien qu'il y a des caméras avec des systèmes de reconnaissance faciale qui sont...
J'allais dire, ça leur rappelait des souvenirs quand ils faisaient...
Mais voilà, exactement. Ça avait un petit côté soviétique face aux fonctionnaires totalement débordés, complètement incompétents. Et puis le scrutin sans aucune surprise, mais auquel le parti tient énormément à ce qu'il y ait une participation
forte. Et ça veut dire quoi ?
Il y avait ça, une participation très forte, 75%, je crois.
Mais les Russes sont assez...
Et la deuxième chose, la deuxième surprise, c'est l'effondrement. Il y avait trois petits candidats dérisoires, mais un communiste quand même, dont le score est totalement minable. Il est misérable à un point qui est un peu surprenant même.
Mais ça veut dire que les Russes sont derrière Poutine, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de discussion.
Écoutez, vous avez eu la semaine dernière, il y a 15 jours, il y a toujours d'ailleurs des tas de gens qui vont déposer des fleurs sur la tombe de Navalny. Un monceau de fleurs invraisemblable. Et donc il y a des gens qui manifestent leur opposition. Il y a eu beaucoup de monde hier à midi pour aller voter à l'appel de la veuve de Navalny, qui est une espèce d'embolie devant les bureaux de vote. Mais ça reste marginal. Il y a 77 scrutins cette année, en 2014. Plus de la moitié de l'humanité vote. Et dans plus de la moitié des cas, ce sont des scrutins où il n'y a aucun suspense, où il n'y a aucun pluralisme. L'élection en Russie, c'est comme l'élection en Chine, c'est comme l'élection dans la plupart des pays de l'humanité. C'est une manière de conforter le pouvoir, de relégitimer un régime autoritaire qui a peur.
La Troisième Guerre mondiale, Vladimir Poutine.
Je pense que tout est possible dans le monde moderne. Mais je l'ai déjà dit, et il est clair pour tout le monde, que ce conflit ne sera juste qu'un pas de plus vers une troisième guerre mondiale à grande échelle. Je pense que cela n'intéresse personne.
Oui, tout le monde fait son petit nord-coréen, en fait. Tout le monde joue les Kim en ce moment, en brandissant son arsenal, en jouant sur la peur, en jouant sur le pire. Moi, je suis frappé, par exemple, j'étais étonné d'entendre, par exemple, le nouveau ministre de la Défense chinois. Alors, c'est pas un grand pays, la Chine, c'est juste le numéro 2, qui a téléphoné à son homologue russe pour lui dire « assez des intimidations occidentales ». Et là, vous réalisez quand même qu'il y a, dans cette affaire ukrainienne, quelque chose qui est en train de prendre une sorte de volume artificiel. Peut-être que ça va totalement se dégonfler après les élections européennes. Mais il y a quand même le début, l'amorce d'une escalade qui est un peu dérangeante. Oui.
Vladimir Poutine, toujours.
Il n'avait pas l'air d'exulter, vous avez remarqué. Hein. Il vient d'être élu à près de 90%. Il tire une tête d'enterrement au milieu des jeunes gens qui l'entourent, qui eux-mêmes portent le deuil, semble-t-il, des 300 000 Russes tombés au front.
Écoutons ce que dit Vladimir Poutine sur la France cette fois.
J'aimerais que la France ne joue pas ce rôle. Cela ne fait qu'augmenter le conflit, l'aggraver, le provoquer. Mais qu'au contraire, comme cela a déjà été dit ici, elle fasse quelque chose pour trouver des solutions pacifiques. En ce sens, la France pourrait jouer son rôle. Mais tout n'est pas encore perdu.
Pékin, de son côté, a félicité Vladimir Poutine. La France n'a pas félicité Vladimir Poutine ?
Non.
Écoutons Emmanuel Macron.
Je veux qu'on en passe, ça ennuie tout le monde, vous savez, cette histoire. Parce que franchement, c'est un non-événement. Hein. C'est un non-événement. C'est-à-dire, tout le monde sait s'il n'avait pas été élu, alors là, on aurait raison d'en parler. Mais là, franchement, on savait très bien qu'il allait être élu.
Oui, mais les réactions, par exemple, que la France, c'est intéressant à décoder, décrypter.
Alors, c'est intéressant. Parce que j'ai dit 300 000 types tombés au front, et ma voisine m'interroge. Donc, il y a... D'après les estimations occidentales, 70 000 morts. Vous avez 3 blessés et demi par mort en général dans un conflit, ça fait 300 000.
Écoutons ce qu'a dit Emmanuel Macron sur le sursaut attendu.
Ce sursaut européen, c'est faire plus. Nous avons signé un accord bilatéral, nous avons encouragé les autres à faire, nous avons lancé, on y reviendra, de nouvelles initiatives. Et c'est faire différemment, c'est-à-dire face à un adversaire qui ne dit pas où il s'arrêtera, pourquoi nous dire chaque matin où nous nous arrêterons ? Nous avons un objectif, la Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre. Voilà la continuité de la position de la France. Nous sommes à vos côtés parce que nous sommes aux côtés de la paix et qu'il n'y a pas de paix pour l'Ukraine et pour l'Europe qui passerait par une capitulation des Ukrainiens parce que ce serait un renoncement à notre sécurité.
Ce que je trouve incroyable, c'est qu'Emmanuel Macron, donc il a donné une interview à France Télévisions. Quand il donne une interview, il fait tout de suite une séquence Twitter, tout de suite après. Pour redire ce qu'il vient de dire. Et là, il reparle à la télévision ukrainienne.
Il a raison d'expliquer. Il a raison d'expliquer ce qu'il vient d'expliquer. Parce que là, ce qu'il dit, c'est que la paix, c'est la guerre. Donc, il faut quand même un
petit peu... Et le Parisien...
Il interview de plus pour expliquer la précédente.
Et alors, dans le Parisien, il dit peut-être qu'à un moment donné, il faudra avoir des opérations sur le terrain. Peut-être donc les persistent et signent.
Mais il y a deux choses. Il parle tout le temps et il ne parle que de ça.
Oui. Mais personne n'est sur cette ligne.
Avoir des opérations sur le terrain pour contrer les forces russes, a-t-il dit. Pour contrer les forces russes.
Pas son initiative. C'est s'il y a une escalade de la part des Russes.
Bon. Je ne le souhaite pas, je n'en prendrai pas l'initiative.
Voilà. Bah oui.
Je vois que mais peut-être qu'à un moment donné, il faudra avoir des opérations sur le terrain, quelles qu'elles soient, pour contrer les forces russes.
Bien sûr. Puisqu'on parle de modèle soviétique passé, Sandrine Rousseau vient de prendre la parole et elle veut défendre le pluralisme et elle envisage d'interdire CNews. Rien de moins.
Sandrine Rousseau. C'est la ligne des écolos, elle est cohérente.
Elle veut interdire.
Bon, c'est une sorte de loi martiale. C'est déjà la loi martiale.
Bon. Donc moi, je veux bien qu'on fasse la guerre, mais écoutez Bruno Clermont, qui est le général qui intervient sur notre antenne, on n'a rien.
Le but de la loi de programmation militaire qui a été votée au printemps dernier est de remonter nos capacités militaires, mais aujourd'hui, on n'a pas assez de munitions, on n'a pas assez de chars, on n'a pas assez d'avions, on n'a pas assez de bateaux. Bref, on n'est pas prêt à faire ce type de guerre. Mais néanmoins, la question ne se pose pas, parce que si on devait faire une guerre contre la Russie, ce qui est très peu probable, on ne la ferait pas seul. On l'a fait avec nos partenaires de l'OTAN, et dans l'OTAN, vous savez qu'il y a 32 pays maintenant, dont les États-Unis. C'est une situation qu'on peut étudier, mais qui effectivement est la base qui nécessite que nos armées se préparent pour plus tard à un conflit de haute intensité dans le cadre de l'OTAN, ce pour lequel nous ne sommes pas prêts. Ce que demandent les Ukrainiens, c'est de livrer des armements et de livrer des munitions. C'est sur ce sujet-là que les Européens doivent se mobiliser. Et puis en ce qui concerne la France, il est effectivement urgent de se réarmer, parce que si on veut la paix, il faut préparer la guerre, et les capacités de nos armées ne sont pas suffisantes aujourd'hui.
Non. On est dans l'avant-guerre, mais après les JO, après les élections européennes, pas pendant les JO à la guerre, hein, ni pendant le salon de l'agriculture, ni non plus pendant les vacances de la Toussaint, s'il vous plaît. Hein. On est dans l'avant-guerre et tout ça va s'estomper au fur et à mesure que les mois vont passer.
Et oui, parce que vous avez raison, il faut peut-être annuler les JO, en fait, si on est dans l'avant-guerre.
Ah bah,
vous avez parfaitement raison, en fait, ça sert à rien. Oui. Non, mais vous avez parfaitement raison. Si vraiment c'est à ce point grave.
À la Courneuve, on prépare les JO activement, mais comme on l'a vu au début de cette émission.
Oui.
Pourquoi vous faites dans l'ironie comme ça?
Mais ah, parce qu'il y a de quoi ironiser, en fait, sur les positions du président de la République. Parce que tout le monde sait pourquoi il le dit.
À savoir.
Il y a les élections européennes.
Non,
je pense que non,
ça dépasse. En tout cas, on ne peut pas ne pas mettre. Bah écoutez, il est le seul à le dire comme ça. On ne peut pas ne pas y penser.
Je pense aussi.
On ne peut pas ne pas y penser.
La perspective stratégique, c'est d'endosser le leadership européen à la place des Américains qui ont fait défection sans avoir les moyens des Américains, en ayant les moyens des Européens et encore simplement une petite partie.
Jean-Marie Roy.
Même pas ceux de l'OTAN.
Ça, d'accord.
Alors, mais Jean-Marie Roy, la semaine de la langue française, elle commence aujourd'hui.
Oui.
Quelle est la première mesure, si vous étiez par exemple ministre de la Culture? On vous a proposé d'être ministre de la Culture?
Non. On a compris que j'ai... que, disons, je changerai trop de choses.
Qu'est-ce que vous changeriez?
Je commencerai par demander aux gouvernants de parler français. De parler français. Et vous savez, ce qui me frappe chez les gouvernants, c'est qu'on dit on est menacé.
Oui, mais ça, c'est impossible, il y a trop de travail.
Vous avez bien vu le cluster, alors que. Au moment, Olivier Véran parlait de cluster. S'il fallait parler de foyer. Mais ce qui me frappe dans ce gouvernement, c'est qu'il paraît qu'on est menacé par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle me paraît être au gouvernement, complètement chez nos dirigeants. Parce que regardez, ce sont les paysans qui ont dit, qui ont ramené les gens à la vérité. Ils les ont ramenés au bon sens. On est complètement dirigé par des gens. Quand ils parlent de complexité administrative, mais franchement, est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait une révolte paysanne pour qu'on comprenne la complexité administrative qui nous pénalise depuis tellement longtemps? Donc l'intelligence artificielle, elle existe déjà. Voilà, c'est les gens du gouvernement. Et en plus, ils démolissent la langue française en parlant un franglais invraisemble.
Bon,
et
ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous feriez?
La première chose que je ferais...
Non, la deuxième. La première, vous l'avez dit. La deuxième,
décorer.
C'est que... Et j'ai pas dit la seconde.
Non, je reprends personne, vraiment, à mettre sur la langue française. Je suis pas un pédant. Non, mais ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais montré l'importance de la littérature. Parce que, vous savez, il y avait un grand écrivain allemand qui s'appelle Curtius, que vous connaissez peut-être pas, mais... C'est pas grave. On peut le lire.
Quel mépris.
Il disait.
Franchement, quel mépris.
Il a fait un livre magnifique sur la France, que je vous recommande. Il disait la France repose sur trois piliers. L'État, le catholicisme et la littérature.
Oula.
Et la littérature, qu'est-ce que c'est?
Ça, c'était avant. Hein, si vous me permettez.
Non, mais attendez. La littérature, c'est la religion française. Si les gens s'entendaient, ils s'entendaient à travers la langue française et à travers... Pourquoi ? Parce que la langue française, qu'est-ce qu'elle a amené ? Elle a amené des chefs-d'œuvre invraisemblables. Vous vous rendez compte ? Cette chance que nous avons tous de pouvoir partir en week-end avec mon père.
En week-end ?
En week-end. En fin de séjour. En fin de séjour.
En week-end, vous venez de dire ?
En fin de séjour.
Mais enfin, et vous me parlez du franglais ?
Je ne suis pas un...
La démonstration s'écroule.
Je ne suis pas un intégriste.
Donc, bon, au week-end, on a le droit.
C'est comme... Vous savez bien ce que disait Etiamble, qui avait écrit un livre en anglais. Il faudrait débaptiser chewing-gum et l'appeler un mâchouillon. Bon, c'est vrai que c'était de l'ironie.
C'est joli, mais mâchouillon,
vous pouvez être quand même sensible un peu à
l'ironie. Oui, je sais, mais j'aime bien vous taquiner.
Toujours sur la jante. Non. Non. Et je ferai...
La jante féminine.
Je dirais, il faut revenir à la littérature française pour montrer à quel point cette littérature est essentielle.
Je suis d'accord avec vous. Mais oui, mais les gens, ça ne les intéresse pas.
Elle disparaît de l'école. Elle disparaît.
Mais je suis d'accord, mais les gosses, vous leur mettez Madame Bovary, ça les ennuie.
Mais c'est faux. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça ?
Mais parce que...
On voit bien que vous ne lisez pas la littérature contemporaine. Elle est bien plus ennuyeuse.
Mais d'abord, vous avez raison, mais...
Madame Bovary n'est ennuyeux que si on ne vous l'explique pas. Mais si on vous explique...
Je suis d'accord, mais vous savez bien que je suis d'accord. Oui,
j'ai lu Anna Karenine 5 fois. Je ne suis pas un génie complet.
Non, bon, d'ailleurs, on va la recevoir, Madame Bovary, très rapidement. Bon, il est 10h26. Je rappelle quand même que vous étiez venu l'autre jour, on ne va pas reparler du bar de l'Oriental, mais c'est une pièce quand même...
On n'en a pas parlé.
On en a parlé.
Je suis parti furieux parce qu'on n'avait pas parlé.
On en a parlé l'autre jour. C'est 70 ans de Bienfou et les accords de Genève, c'est une pièce de réconciliation.
Dans l'actualité.
C'est formidable.
On est
vraiment
en plein dans l'anniversaire.
Vraiment, allez le voir, c'est au théâtre de Montparnasse. Simplement, Sardou, vous aimez Sardou ?
Mais attendez, je voudrais...
Sardou à l'Académie, il serait bien.
Parce que c'est très...
Il n'y a pas de chanteur ?
Attendez, vous me permettez que je termine ma phrase ?
Oui.
Si vous voulez entrer à l'Académie, vous avez intérêt. Eh bien, on attaque, en effet, les Russes. On dit, c'est quelle bande de salauds, ces Russes, ils attaquent un pays qui leur a rien fait. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait avec l'Indochine ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On est arrivé en Indochine. Jules Ferry nous a dit, vous savez pourquoi ? Au nom du devoir des races supérieures de civiliser les races inférieures.
Bon, il s'est fait renverser pour ça.
Pardon ?
Il s'est fait renverser par Clémenceau.
Pas du tout, c'est lui qui a continué. C'est à ce moment-là que Clémenceau est intervenu. Mais on a quand même eu la guerre en Indochine.
Oui,
mais
il
a dit, je vois mal le cabaretier de Carpentras civiliser le mandarin d'Hanoï, du Tonga. Bon.
Donc, est-ce que vous aimez Sardou ?
On a agi exactement comme font les Russes.
C'est pas la même période. Bon, est-ce qu'on peut écouter Sardou, s'il vous plaît ?
Et c'était la démocratie.
Bon, est-ce que vous aimez Sardou ?
Bien sûr.
Mais il n'y a pas de chanteur à l'Académie ?
Il n'y a pas de chanteur, il y a un parolier, d'Abadi.
Oui, il n'y a pas de chanteur.
Vous en avez un à proposer ?
Sardou.
Ben oui, pour qu'il se présente.
Eh ben, je suis d'accord avec vous. Mais il a 77 ans.
Mais alors, il a le droit.
Mais non, je crois
qu'on a changé la règle. On a changé la règle.
Ah bon ?
Oui, on a changé la règle. Qui était d'ailleurs.
En 77.
C'est pas le plus beau passage de l'Académie.
Oui.
J'y étais, j'étais contre ce changement de règle. On ne m'a pas écouté. On a eu tort. La preuve, c'est que 20 ans plus tard, on est revenu sur la
décision. Donc là, il n'y a pas de limite d'âge.
Non, aucune limite d'âge.
Bon, donc 77 ans, finalement, c'est en pleine
jeunesse. Pas la peine d'attendre trop longtemps non plus.
C'est en pleine jeunesse, 77 ans, l'Académie, pour vous. Ça sera un des plus jeunes.
Mais non, arrêtez. Vous rentrez dans les clichés. Moi, j'étais élu à 52 ans.
Oui.
Voilà. Donc, il y a des gens qui travaillent. Jean d'Ormesson à 45 ans. Et puis Pierre Loti à 40 ans, et quand il est entré, il a dit « L'Académie m'éloigne de tout ce que j'aime. Le soleil et la jeunesse. »
Bon, écoutons, alors, je voulais vous montrer un petit medley. C'était très émouvant, Sardou, samedi soir, parce que...
Medley ?
Un petit florilège. Un petit florilège.
Bon, vous voyez, vous avez florilège, employez-le.
C'est joli, florilège.
Oui, très joli.
Bon, et c'était émouvant. D'abord, le concert était magnifique. Et c'est vrai que c'est la dernière fois quasiment qu'il est sur scène. C'était à l'Arena La Défense. Et il y avait 25 000 personnes quand même qui connaissent par cœur toutes ces chansons et qui les reprennent. Et c'est la bande son de notre adolescence, c'est la bande son de notre enfance, c'est la bande son de notre existence. Et c'est ça qui est émouvant. Voyez ce petit florilège. Écoutez.
Quand j'étais petit garçon, je repassais que le son en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps
quand je t'entends. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. Je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens. De ne prévoir que le bout de l'ordre. J'accuse les hommes de salir les torrents, d'empoisonner le sable des enfants, de débroser l'âme des pauvres gens, de décroiser le fond des océans. Ce soir il me vient des idées, ce soir il me vient des idées, ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber, ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté.
Mais 323. Qu'il n'y ait pas de chanteur à l'Académie, mais je vous signale qu'il y a des chanteurs français, il n'y en a nulle part. Dans aucune chaîne de radio, maintenant, vous entendez les chansons françaises. Il n'y a aucune émission. Il n'y a aucune émission sur la chanson française.
Si, c'est, alors c'est pas vrai. Il y a Didier. Non, ce n'est pas vrai.
On est devenu une colonie américaine.
Didier Barbelivien sur Europe 1.
C'est le seul.
Fait, et vous y avez participé, d'ailleurs, oui, à cette émission.
C'est pour ça que je le remarque.
Somaya, est-ce que Somaya.
Dans les émissions, dans sur les chaînes de radio, des chansons françaises.
C'est pas vrai, il y a Chante France, Nostalgie. Mais non, il y a Chante France et Nostalgie.
Dans n'importe quel hôtel, quand vous rentrez dans l'hôtel, dans l'ascenseur, qu'est-ce que vous entendez? Vous n'entendez pas les chansons françaises.
On n'entend pas de la musique dans l'ascenseur.
Vous n'avez qu'à prendre l'escalier.
Heureusement.
Somaya. Somaya la midi.
Franchement, c'est...
Après les violences, retour au calme à La Courneuve, 9 individus interpellés après des tirs de mortiers d'artifice visant le commissariat. Des incidents qui ont nécessité le déploiement de renforts. Plus de réactions après la réélection de Vladimir Poutine. Les conditions d'une élection libre n'ont pas été réunies, déplore Paris. Paris qui néanmoins salue le courage des citoyens russes opposés au régime du Kremlin. Et puis des images spectaculaires, nouvelle éruption volcanique en Islande, la quatrième dans cette zone depuis le mois de décembre. L'état d'urgence a été décrété alors que la lave se dirige désormais sur la localité de Grindavík.
Une autre séquence que je voulais vous montrer de Michel Sardou, c'est avec le public. Merci beaucoup Somaya Labidi. À la fin, il termine avec Musulmane et puis ça dure pendant 5 minutes, 10 minutes et puis il voit les uns et les autres. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Rien, ah bon. On vous attend.
Donc il va voir les spectateurs, et puis il échange avec eux, et puis il y a des fleurs, et ça, c'est très très émouvant. Vous voyez cette séquence? C'est 323 chansons, je l'ai dit, c'est des dizaines de tubes, c'est 60 ans de succès ininterrompu, c'est un monument. Je n'ai pas d'autre mot qui me vient à la bouche quand je parle de Sardou, c'est un monument. On était avec Laurence Ferrari, notamment, samedi soir, et Laurence a filmé cette sortie du concert, et c'était vraiment... moi, je trouve que c'est émouvant. C'est émouvant pour les raisons que je vous ai dites. Et c'est peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'il y en a tellement, c'est peut-être le plus beau répertoire de la chanson française. Tellement. Alors, bien sûr, il y a Goldman, bien sûr, il y a Johnny, bien sûr, Brassens. Oui, mais je suis d'accord, mais en nombre de succès.
C'est la qualité qui emporte. Je ne peux pas dire que Brassens, c'est
Brassens. Mais je vous dis pas.
Extraordinaire, c'est un poète.
Oui, non, oui.
Je m'aperçois que Brassens est très au-delà de est très peu repris aujourd'hui. On l'écoute assez peu, Brassens.
Ça accuse notre société plutôt que Brassens.
Oui.
Pourquoi? Parce que la moitié traverse les générations. Ma génération, elle chante encore Sardou, elle danse encore Sardou.
Voilà. Moitié des chansons de Brassens ne passerait pas aujourd'hui.
Non, mais c'est le critère. Le talent, c'est de plaire.
Non. Pas seulement plaire.
Le talent, c'est plaire et en même temps élever l'esprit et participer à l'esprit et avoir une chance de durer, c'est ce que nous faisons chaque matin. C'est ça l'universalité.
Oui, mais qui dure? Écoutez, franchement, dans les écrivains, il y en a deux par siècle. Il y en a trois par siècle qui passent. Tous vos amis que vous avez cités, François Nourricier, il était académicien?
Non, académie Goncourt.
Bon. Personne ne le lit plus. Mais je veux dire, Jean d'Ormesson, déjà hélas, ou pas, on le lit plus.
Une conception trop commerçante de l'art.
Oh.
L'art, c'est pas seulement, mais non, mais c'est pas seulement.
C'est pas mon genre.
Vendre des livres ou plaire à un certain nombre de personnes. Je vous signale que les écrivains, il y a énormément d'écrivains aujourd'hui, on a une très grande richesse littéraire. Et qui dure depuis très longtemps.
Il y en a deux aujourd'hui. Il y a Emmanuel Carrère.
Ah bon, vous les désignez comme ça?
Il y en a deux qui, sans doute, Emmanuel Garrère et Houellebecq, qui sans doute
vont rester dans la postérité.
Et Jean-Marie Roy.
Et Nicolas Mathieu.
Ça mériterait une conversation un peu plus longue.
À mon avis,
on ne sait jamais qui demeurera dans la postérité. Parce qu'on ne reste pas dans la postérité uniquement par son talent. Sinon, Anatole France serait au pinacle. Personne n'en parle. Sinon, Barrès serait au pinacle. On n'en parle pas. Donc, la postérité, c'est le jugement. La sensibilité des siècles qui succéderont.
Je suis
donc,
d'accord.
Ça mériterait un débat qui serait intéressant.
Je suis d'accord.
Je pourrais enfin m'exprimer.
La mort ramasse les copies. J'ai terminé. Lénine.
Comment? Qu'est-ce que... On dirait du Lénine.
Laurent Prat était à...
Je vois qu'elles sont vos sources maintenant.
Laurent Prat était à la réalisation, Nicolas était à la vision. Amanda et Lounès étaient au son. Merci à Benjamino, merci à Félix Perrolaz. Vous avez été formidables. Faut qu'il revienne.
C'est bien ce matin.
Oui, et comme ça, il y a peut-être parler de ma pièce de théâtre.
Mais attendez, on s'en fiche du commerce. Vous avez un rapport commerçant au théâtre.
Non, parce que c'est l'esprit.
Bon,
c'est
le bar de l'Oriental.
Et c'est réparer notre injustice vis-à-vis de la logique.
On en parlait toute la semaine.
On est très coupable.
J'ai bien compris.
On est aussi coupable que les Russes en envahissant l'Ukraine.
C'est fini. Parce que Jean-Marc Morandini, il ne va pas être content. À ce soir.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.